Avec l'aide et la participation de Madame Didier, professeur documentaliste, Madame Serrault, professeur d'histoire géo, et Madame Michel, professeur de français, les élèves de 3e A et 3e C du Collège Montaigne de Tours ont réalisé une série de podcasts sur la Première Guerre mondiale. Radio Campus est venu guider les élèves pour découvrir les différents contenus radiophoniques possibles. L'anachronisme est permis, on peut jouer avec les codes de la radio, jouer un rôle, imager et sonoriser un événement. Une seule consigne, la vérité historique doit être respectée. La série de contenus que vous allez écouter reprend donc le fil des événements qui ont conduit au premier grand conflit mondial de 1914. Attentat de Sarajevo, conditions de vie des soldats dans les tranchées, le travail des femmes, les mutineries de 1917, la révolution russe, le retour du front ou bien encore le traité de Versailles. Ces podcasts sont à retrouver sur notre site radiocampustour.com et sont à écouter tout de suite sur nos ondes.
Bonsoir Flash Info. Un terrible incident s'est déroulé ce dimanche 28 juin 1914 à Sarajevo. Notre envoyé spécial, Maurice et Emma, s'est rendu sur les lieux pour interroger des témoins.
Oui, bonsoir. C'est ici qu'il vient de se passer une terrible fusillade il y a quelques heures. J'ai avec moi une témoin qui était présente sur les lieux. J'ai avec moi Lena Engrand de l'OMO, présente sur le moment de l'attaque.
Attendez. On vient de m'annoncer à l'antenne la mort de l'archiduc et de sa femme. Je vous redonne la parole pour nous dire comment ça se passe de votre côté.
On vient de m'annoncer le malheureux décès de l'archiduc et de sa femme. Pouvez-vous nous expliquer votre ressenti et comment le vivez-vous ?
Excusez-moi, j'ai encore du mal à assimiler ce qui vient de se passer, plus que vous venez de m'annoncer.
Comment s'est-elle déroulée ?
C'est passé très vite. On était heureux de la venue de l'archiduc et de l'archiduchesse. Puis nous avons entendu deux coups de feu.
Saviez-vous qui est derrière cette attaque ?
Nous avons entendu le jeune qui a tiré nous déclarer qu'il était un nationaliste serbe.
Savez-vous pourquoi l'a-t-il fait ?
Je ne sais pas exactement, mais je pense que ce sont des agitateurs qui cherchent à déstabiliser l'Autriche-Hongrie.
D'accord, merci de votre témoignage.
Vous en saurez plus en regardant les prochains bulletins d'information. Bonne soirée sur Radio Campus.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez Radio Campus et nous sommes en présence d'Ernest et d'Arsène, deux anciens poilus. Il est 19h30.
Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Nous sommes réunis ici ce soir pour parler de vos conditions de vie durant la période dans les tranchées. Arsène, on vous écoute.
Par où commencer ? Parce que la guerre, c'était vraiment une période importante dans ma vie et aussi pour la vôtre, je pense, Ernest.
Oui, c'était invivable. D'abord, l'hygiène, je vous raconte pas, les rats, et poux, etc.
Ah oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette hygiène insurmontable ?
Pour commencer, ce qui nous marquait le plus dans les tranchées, c'était l'accès aux sanitaires, nous ne pouvions pas nous doucher ni nous raser.
Arsène, avez-vous d'autres choses à ajouter sur ce sujet ?
Oui, les rats et les poux qui étaient toujours présents dans les tranchées, ils mangeaient nos canons et même nos rations. Ils apportaient énormément de maladies comme la gale et la rage.
Merci Arsène. Ernest, pouvez-vous nous parler des violences psychologiques ?
C'était la chose la plus omniprésente dans mes pensées. L'attente de la mort, les soldats déprimés, blessés et même morts dans les tranchées et les bruits angoissants des obus.
D'ailleurs, en parlant d'obus, est-ce que l'un d'entre vous aurait été blessé ?
Oui, pour ma part, j'ai déjà été blessé. J'ai pris une balle dans le thorax et aussi dans la jambe.
Et vous, Ernest ?
Pour ma part, non.
Je vous remercie pour votre venue et vos explications. À plus tard sur Radio Campus.
Au revoir.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 20h du 17 novembre 1920. Ce soir, nous avons à nos côtés trois femmes qui viennent témoigner de leur ressenti et de leur vécu durant la Grande Guerre, il y a 2 ans. Nous accueillons tout d'abord Fantine.
Bonjour à tous. J'ai aujourd'hui 24 ans, mais lors de l'appel aux femmes du 7 août 1914, je n'en avais que 18. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Sans le savoir, c'était le début de l'enfer.
L'enfer ? Pour les femmes ?
Oui, bien sûr. On nous obligeait à prendre la place des hommes dans les usines, peu importe notre âge et notre classe sociale. On travaillait dans les usines, les champs, les bureaux ou les hôpitaux pour maintenir le pays en marche.
Cet appel a été important pour vous. Comment vous êtes sentie à ce moment-là, Fantine ?
Effectivement, cela a été important pour nous. Les hommes ont enfin reconnu notre courage, notre dévouement et notre patriotisme. Et pour la première fois, je me sentais enfin reconnu.
Merci pour votre témoignage, Madame Fantine, et bonne soirée à vous. Maintenant, nous accueillons Jeanne.
Bonsoir, j'ai 36 ans et je viens pour parler de ces 4 années qui ont changé ma vie.
Comment cette guerre ont-elles changé votre vie, Jeanne? Expliquez-nous.
Notre silhouette était différente, nos cheveux courts comme ceux des hommes, et nous avions le droit de porter des pantalons.
Dans quel domaine travaillez-vous pendant la guerre?
J'étais munitionnette, fabriquant des obus dans les usines. Je travaillais énormément et avec peu de repos. Et à mes heures perdues, j'étais marraine de guerre pour maintenir le moral des soldats au front.
Merci Jeanne pour ce témoignage et n'oublions pas ce que Marcel Capi a dit. De jolis visages, de frêles silhouettes, elles donnent chaque jour la fleur de leur jeunesse, de leur santé. Ne dites jamais qu'elles sont privilégiées, ne riez jamais de leur peine. Il faut avoir faim pour faire ce qu'elles font. Accueillons la dernière femme de cette soirée.
Bonsoir, je m'appelle Mathilde, j'ai 50 ans, mais 44 ans à l'époque.
Parlez-nous de l'émancipation des femmes de 1914 à 1918.
En 1916, une loi a interdit aux employeurs d'embaucher des hommes sur des postes accessibles aux femmes. Malgré cela et tout ce que nous, les femmes, avons fait, nous n'avions rien obtenu, même pas le droit de vote, alors que les femmes britanniques de 30 ans ont le droit depuis 1918. J'espère que cela changera.
J'espère que vous aussi. Au revoir, bonne soirée et à demain dans ce journal de 20h.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louise, Zoé et Shanna, les 3 plus grandes historiennes spécialisées sur la Révolution russe qui ont gentiment accepté de venir développer ce sujet sur notre plateau. Shanna, historienne spécialisée sur l'histoire des femmes. Bonjour Shanna, aujourd'hui vous allez nous parler de la manifestation de février 1917.
Le 23 février 1917 est une journée internationale des femmes. Des milliers de femmes défilent dans les rues de Petrograd.
Qui participe à cette manifestation?
Ce sont les femmes qui participent et elles sont rejointes par 150 000 ouvriers.
Que réclament les manifestants?
Les manifestants réclament la paix, du pain, le droit de vote et la chute du tsar.
Merci Shanna. Nous sommes en mars 1917. Bonjour Louise, spécialiste sur la première révolution. Face à cette manifestation, quelle décision prend le tsar?
Le tsar Nicolas II décide d'abdiquer du trône, c'est donc la chute de la dynastie des Romanov.
Qui dirige alors le pays?
Un gouvernement provisoire est désigné par l'Assemblée et le Soviet de Petrograd.
Que décide-t-il de faire et comment réagit le peuple?
Tous ensemble décident d'instaurer la liberté d'expression, le droit de vote et de mettre fin à la peine de mort. Le peuple est alors content de ces résultats mais se rend vite compte de la réalité des choses. La guerre et la misère perdurent et c'est alors que la deuxième révolution commence.
Merci Louise. Nous sommes maintenant en octobre 1917. Zoé, spécialiste de la seconde révolution. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Qui organise cette nouvelle révolution?
Ce sont Lénine et Trotsky. Ils sont tous les deux du parti bolchevique. Ils veulent renverser le gouvernement provisoire qu'avait désigné l'Assemblée et le Soviet de Petrograd. Les bolcheviques s'emparent du palais d'hiver où siège le gouvernement provisoire. Le lendemain de cet événement, Lénine prend la tête du pays.
Quelles sont les conséquences face à cette prise de pouvoir?
Face à cette prise du pouvoir, tous les combats s'arrêtent et une paix immédiate s'installe. Les terres et les usines sont alors reprises des nobles et redonnées aux paysans et ouvriers.
Merci Zoé. On se retrouve en 1922. C'est là la création de l'Union des Républiques Soviétiques et Socialistes, autrement dit l'URSS. La Russie devient le premier État communiste au monde. Merci de nous avoir écoutés. Je rends l'antenne.
Bienvenue dans Radio Campus Tours. Nous sommes le 17 décembre 1918, il est 16h58. Nous allons vous présenter le choc qui a causé la guerre aux familles. Nous avons Marie Dupont à l'antenne avec un poilu.
Oui, bonjour, je suis effectivement avec Charles René, ancien poilu. Bonjour Charles, comment vas-tu?
Bonjour, je suis heureux d'être rentré du front. Et pour savoir comment je vais, il est encore trop tôt pour que je m'exprime dessus.
Bien. As-tu des effets secondaires de la guerre?
Oui, j'en ai plusieurs en effet. La nuit, si j'arrive à m'endormir, je fais des cauchemars horribles. Mon lit est trop confortable et je n'ai plus l'habitude. Et la journée, j'ai l'impression d'entendre des fusils vider leurs chargeurs et des obus retentir.
Merci de vos précieuses informations, monsieur René.
Bien, merci madame Dupont. Pouvez-vous nous présenter l'enfant d'un poilu?
Merci et bien sûr Henri. Alors voici Isaac, Georges, Marie. Alors comment vas-tu mon petit Jacques?
Bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai 10 ans mais je suis triste.
Ah bon, et pourquoi ça, mon petit Jacques ?
Mon père ne paraît pas comme d'habitude car la nuit il se réveille en criant « Ah !» et je n'arrive plus à dormir après.
Très bien, as-tu d'autres choses à nous dire, mon petit Jacques ?
Oui, je ne le reconnais plus parce que sa tête a très beaucoup changé et il roule sur un fauteuil roulant parce qu'il n'a plus de jambes et ça me fait peur.
Merci, mon petit Jacques, de nous avoir fait part de tes sentiments.
Au revoir, Marie Dupont, et merci de nous avoir donné ces précieuses informations. C'était Radio Campus Tour.
Salut à tous. Nous nous trouvons en direct du plateau Actu Histoire et nous venons de trouver une archive inédite. L'interview de trois représentants lors de la signature du traité de Versailles. Georges Clemenceau, qui vient de France, Johannes Beld, qui est le ministre des Affaires étrangères allemande, et le représentant des États-Unis, qui est Woodrow Wilson. Écoutons l'archive. Bonsoir. Nous sommes le 28 juin 1919, le soir de la signature du traité de Versailles. Je suis en compagnie de Georges Clemenceau. Bonsoir, monsieur. Que pensez-vous des décisions prises dans ce traité, qui vient d'être signé ?
Bonsoir. Pour moi, la seule chose que je voulais, c'était écraser l'Allemagne, et je pense que nous avons réussi. Les Allemands ont été reconnus comme le seul responsable de la guerre, ce qui est d'ailleurs le cas.
Merci, monsieur Clemenceau. Maintenant, nous allons discuter avec le représentant des États-Unis, Woodrow Wilson. Bonsoir. Avez-vous des choses à dire à propos de cet événement qui s'est déroulé aujourd'hui ?
Hello. Nous voulons la paix, même si nous sommes entrés en guerre, pour aider nos alliés les Français. Je pense que l'interdiction de la production d'armes est bénéfique. Pour la suite, je n'ai pas d'autre avis.
Merci de votre intervention. Bonne soirée. Enfin, nous allons accueillir Monsieur le ministre des Affaires étrangères allemandes, Johannes Beld. Bonsoir. Suite à toutes ces décisions prises, quel est votre ressenti ?
Guten Tag. Je ne suis pas d'accord avec la plupart des décisions, même après de légères modifications en notre faveur. Nous n'y gagnons rien du tout. Ce traité est une véritable erreur. Nous ne sommes pas les seuls responsables de cette guerre. Nous en avons souffert aussi. Ce sera tout pour moi. Bonne soirée.
Merci messieurs. Au revoir. C'est une découverte incroyable, non ? Merci à tous et bonne journée.